Fabio Viscogliozzi.
Je crois que j'aime bien la brièveté, d'une manière générale. En littérature aussi, mes modèles seraient plutôt du côté du bref. Même si finalement, il y a quand même une question de la continuité, puisque le passage de l'un à l'autre crée, c'est ce que je dis à un moment, finit par créer un grand tout. Et je vois les livres eux-mêmes comme des moments d'un enchaînement plus vaste.
Ça peut pas faire de mal.
Je parle beaucoup du passé, oui, mais il n'y a pas une idée de... Enfin, chez moi, il n'y a pas... Peut-être c'est se rendre compte que le passé n'existe pas. Enfin, il y a quelque chose sur la temporalité aussi qui m'intéresse là-dedans. Quel lien y a-t-il entre Paolo Uccello, André Gide, Frank Sinatra, mon propre père, moi-même enfant et moi-même aujourd'hui? Je ne sais pas. Enfin, voilà, je suis fait de tout ça et traverser tout ça.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Il suffit de trois fois rien. Un matin, l'envie me prenant de faire une promenade, je mis le chapeau sur la tête et, en courant, quittai le cabinet de travail ou de fantasmagorie pour dévaler l'escalier et me précipiter dans la rue. Je relis souvent cette phrase de Robert Walser. C'est ainsi que débute son court récit intitulé tout simplement « La promenade ». Il date de 1917. J'en goûte les vertus effervescentes et particulièrement certaines nuances. Je mis le chapeau sur la tête. La phrase de Walser n'a rien de possessif. Cela fait toute la différence. L'envie traverse la tête qui se précipite dans la rue pour la journée, gratuitement. Je repense à Jack Kerouac, de retour après ses jours et ses nuits de patachon, après les fanfares et les roulements de tambour, écœuré et las de toutes les bouches, de toutes les pâtisseries. Kerouac ne désirait plus qu'une chose, s'allonger dans l'herbe et regarder les nuages, seul au sommet d'une montagne. Ou mieux encore, rentrer tranquillement en sifflotant chez sa mère, mes mères, dans sa vieille ville de Lowell, Massachusetts. S'accorder une bonne nuit de repos agréable, traîner toute la journée dans la maison, à méditer ou à écrire, et puis s'asseoir au pied d'un arbre au fond du jardin, et ensuite faire une longue promenade jusqu'au pont qui enjambe la rivière Merrimack pour rejoindre le quartier du centre, le billard et les copains. Aujourd'hui, il me semble que l'on ne peut rien souhaiter de mieux à quiconque. Une bonne flânerie, légère, désinvolte et inutile. C'était la dernière page d'un livre bouleversant, « Je suis pour tout ce qui aide à traverser la nuit », écrit par un auteur, dessinateur, musicien et ami, Fabio Viscogliozzi. Il est né en 1965, de parents italiens, mais il vit en France et écrit en français des bandes dessinées et des récits dans lesquels il raconte sa vie de garçon. Dans ses livres, on croise ses maîtres de pensée. On entend les musiques qui le bercent, les films qui le font rire et les femmes qui l'ont fait rêver.
Ho paura che sia viva. Tutto sta diventando maledettamente facile.
Son œuvre est un immense puzzle qu'il faudrait lire un peu comme le fait Kerouac, tranquillement, au pied d'un arbre au fond du jardin.
Persino privarsi del dolore.
Mais ce soir, nous allons la découvrir en studio avec lui. Et je suis ravi de l'accueillir. Bonsoir Fabio Viscogliozzi.
Bonsoir Guillaume.
Continuons à parcourir ce très beau livre « Je suis pour tout ce qui aide à traverser la nuit ». Il s'agit de votre premier récit paru en 2010 aux éditions Stock et c'est une pierre à mille facettes puisque ce livre est composé d'une centaine de chapitres assez courts dans lesquels vous écrivez vos souvenirs et vos passions. Dans ce joyeux désordre, Magritte côtoie Buster Keaton et une réflexion sur la planète Mercure fait suite à une autre sur le bricolage. Et puis il y a l'évocation de vos parents, disparus tragiquement dans l'incendie du tunnel du Mont-Blanc en 1999. Ils sont présents à toutes les pages, votre père surtout, que vous aidiez souvent, étant plus jeune, sur les chantiers de construction. En avant marche.
L'Italie est le pays des routes. Mon père quitta l'Italie deux fois, en 1952 d'abord, puis en 1956, pour de bon, pour toujours. Mais ça, il ne le savait pas encore. Il remontait vers le nord et venait travailler en France, comme beaucoup d'autres Italiens. La Via Aurelia, qui longe la côte, lui faisait traverser des villes dont il ignorait l'existence. Civitavecchia, Viareggio, Genova. sentiments mêlés, voix forte dans un café, les rires, la vie, l'Italie du haut, riche et bien portante. Station balnéaire, vision de cinéma, Hollywood et Cinecittà réunis sur fond de jazz et variété 50s, Renato Carosone ou Fred Buscaglione au choix. Mon grand-père l'accompagnait lors de ce premier voyage. Une photographie les montre de face, cravatée pour la circonstance. Franco, 15 ans, les joues rondes et imberbes, costume clair et pantalon à revers déjà trop court. Il tient son père par l'épaule. Un éternel mégot fume au bout des doigts de mon pépé Carlo. Derrière leur sourire un peu crispé, on devine l'inquiétude et la tristesse de se quitter bientôt. Mais ni l'un ni l'autre n'en veut rien laisser paraître. Une main dans la poche de sa veste, mon père avance légèrement la jambe gauche dans une attitude qui se veut optimiste. Celle d'un petit homme sûr de lui, à la cool. À l'arrière-plan, on devine la silhouette sombre de l'usine d'outillage, fierté du bassin stéphanois. Mon père va y passer un an, seul comme une pierre. Plus tard, il me racontera.
J'avais une unique paire de chaussures. Peu à peu, mes pieds grandissaient, ils traversaient le cuir et je ne savais plus comment faire pour les arrêter.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Les Frankies.
Let me see what spring is like on.
Mon père s'appelait Franco, mais en France on l'appelait Franck ou plus rarement Frankie.
In other words,
Frank Sinatra était né Francis Albert, mais pour des millions d'intimes, c'était Frankie lui aussi. Un Italo comme mon père, mais la comparaison s'arrête peut-être ici. Ce Frankie avait les yeux bleus et venait d'Hoboken, New Jersey. Un artiste complet de la vieille école, plutôt connu au XXe siècle. Les disques de Frankie tournaient chez nous parfois, j'en suis plus très sûr. Nous l'aimions, Frankie, mais à distance, en différé. Il appartenait à cette classe d'artistes, Roy Orbison, Gene Vincent, Domenico Modugno, Chuck Berry, Bing Crosby, dont on possède un « Greatest Hits » à la pochette criarde, avec l'illusion d'en avoir fait le tour. Aimer un souvenir nous suffisait. Balançoire.
Une chose est sûre, je courais en direction de ma mère ce dimanche de juin. Je courais dans l'herbe avec toute l'insouciance de mes presque 6 ans lorsque le bois de la balançoire me heurta la tempe. En m'écroulant, je vis mon père qui était sur la balançoire. Je le vis bondir pour venir à ma rencontre, et dans mon esprit, ces deux mouvements simultanés, moi tombant, mon père bondissant, s'accomplissaient dans une harmonie parfaite. Les secondes suivantes, j'entendais les voix inquiètes, mais il n'était déjà plus question de bouger, couché le nez dans l'herbe. À cet instant, mon père pensa probablement qu'il venait de me tuer, car mon visage se couvrait de sang. Je ne devais pas être beau à voir. Et puis, il enveloppa ma tête dans un chandail gris clair et m'emporta dans ses bras. De cet épisode, il ne me reste que ces 10 lignes et une cicatrice à l'arcade sourcilière que j'effleure du bout de l'index gauche.
Les fruits secs. Après celle de ma mère, c'est peut-être la première vraie paire de seins que je vois. Elle se penche et son chemisier ouvre un boulevard devant moi. Je ne peux déterminer si le mouvement est volontaire. Il se reproduit et sa poitrine ballotte à portée de main. Les bouts sont longs, sombres et épais. Nous sommes dans sa cuisine. C'est le tout début de l'après-midi. Il règne un désordre qui mêle les restes du petit déjeuner au repas de la veille. Un biberon traîne également, pas loin de quelques bouquins, un guide de cuisine végétarienne et aussi le cru et le cuit de Claude Lévi-Strauss. Des fruits secs s'égaillent sur la table, noix, raisins, noisettes, coquilles brisées, des abricots et quelques pommes Canada grises. Elle me propose un jus de quelque chose à boire et j'essaie de calculer la différence d'âge qui nous sépare. Une petite dizaine d'années, un souffle à peine. Elle se penche à nouveau et l'affaire se complique, car je connais aussi son mari. Il soigne mes dents. Et parfois, le samedi matin, nous jouons au tennis, en plein air. Les revenants.
Chez nous, le printemps 1981 aura été marqué par divers événements comme l'élection de François Mitterrand à la présidentielle, la mort de mon chien des suites de son épilepsie ou l'achat par mon père d'un magnétoscope Philips. Il s'agissait du système V2000 qui aujourd'hui a laissé peu de traces dans les esprits mais sur le moment apparaissait comme une petite révolution avant d'être balayé par les cassettes VHS.
À partir de là, nous avons commencé à enregistrer systématiquement toute la série de films diffusés le vendredi soir au ciné-club et le dimanche au cinéma de minuit. Un jour, ma mère est revenue à la maison avec des piles de boîtiers en plastique tout neufs, dans lesquels nous avons pu ranger les précieuses V2000, tandis que je rédigeais pour chacune une fiche titre avec le nom du réalisateur et l'année de production. Par souci de lisibilité pour la beauté de l'objet, j'utilisais pour ces deux mentions deux feutres d'épaisseur différentes. Au fil du temps, les boîtiers se sont dressés le long du mur, et souvent, mon doigt caressait avec fierté cette ligne sans accroc. La quantité aidant, il est devenu de plus en plus difficile de tomber d'accord sur le choix d'un film pour la séance du soir. Le plaisir de la discussion constituait un prélude nécessaire au visionnage, et ma sœur et moi récitions la liste de nos titres favoris avec la plus parfaite mauvaise foi. S'ensuivaient d'interminables marchandages sur les soirées à venir, alors que mon père dormait déjà sur son coin de canapé. Lorsque la situation semblait définitivement bloquée, ma mère tranchait et nous avions alors recours aux incontournables de la famille. Parmi ceux-ci, je m'en souviens, deux films avec l'actrice Jean Tierney, Laura et l'aventure de Madame Muir, que nous avons revus plusieurs dizaines de fois. Étrangement, l'un et l'autre sont des histoires de revenants.
Puisque nous allons collaborer, vous pouvez m'appeler Daniel.
C'est très aimable à vous.
Et je vous appellerai Lucia.
Mon nom est Lucie.
Ça ne vous va pas du tout, mon petit. Les femmes qui s'appellent Lucie sont toujours de pauvres victimes. Mais Lucia, c'est un nom digne d'une Amazone, digne d'une reine.
Je ne me sens guère comme une reine. J'ai peur, je suis désemparée et je me demande ce que l'avenir me réserve.
Pas confiance en moi?
Oh, mais si, Daniel, si, lorsque je vous parle. Mais quand vous n'êtes pas là, eh bien, c'est beaucoup demander que d'exiger de quelqu'un de se reposer pour tout son avenir sur une personne irréelle.
Mais je suis irréelle. Je suis ici parce que vous croyez que je suis ici.
Comme de l'électricité. Si les colères de mon père étaient brèves et explosives, les miennes également. Mais je ne lui tenais jamais tête très longtemps. Il m'arrivait de fuir par la fenêtre de ma chambre, me laissant glisser le long du mur en ciment, bien décidé à quitter définitivement cette maison. Je m'éloignais sur la route et ma fureur se dissipait aussitôt. Je ralentissais, les bras ballants, goûtant encore un peu le picotement de ma fugue, comme aspiré par le paysage humide et béant devant moi. Une fois seulement, nous nous sommes accrochés pour de bon. J'avais dépassé l'âge de la majorité et il m'avait embauché de nouveau. À la pause du midi, je ne me souviens plus pourquoi, le ton est monté entre nous et je l'ai saisi brusquement par le bras. Ma mère nous a séparés et l'instant d'après, nous étions l'un et l'autre penauds, tristes et honteux de ce qui venait de se produire. Surtout moi. L'après-midi, nous sommes retournés sur le chantier et n'avons plus jamais parlé de cette dispute. Mais les jours suivants, un de mes doigts s'est mis à gonfler et à changer de couleur. Je ne m'en étais pas aperçu, mais dans la confusion, ma main avait heurté le mur ou le dossier d'une chaise. Un vendredi soir, tandis que nous installions un évier, mon père l'a remarqué.
« Ça fait mal ?»«
Un peu, ai-je dit. Comme de l'électricité. » Le lendemain matin, il a fini par m'accompagner à l'hôpital et la radio a montré une fracture au bout de l'auriculaire gauche. Un petit fragment d'os s'était détaché et flottait stupidement au-dessus de l'articulation, en apesanteur. Sans grande conviction, l'interne m'a fixé une attelle. Mais selon lui, il était déjà trop tard et il fallait désormais que je m'habitue à vivre avec ce petit doigt raide et biscornu.
« Comme un envahisseur »,
a dit mon père en rigolant, tandis que l'on ressortait de l'hôpital. Un contre-cœur.
La dernière fois que j'ai vu mes parents, c'était un dimanche, le premier jour du printemps. L'après-midi, nous sommes allés traîner entre les allées d'un petit vide-grenier pour nous dégourdir les jambes. Les vendeurs étaient installés dans un entrepôt plutôt lugubre, traversé de courants d'air. Je me souviens d'avoir hésité devant l'achat d'un album de Kraftwerk, Radioactivity, mais il était vraiment trop abîmé. Un peu stupidement, j'ai également dissuadé ma mère d'acheter une petite vierge assise en plâtre peint. Je me souviens qu'elle ne coûtait pas plus de 10 francs. Ma mère s'est laissée convaincre et a reposé la petite vierge, visiblement à contre-cœur. Sur le chemin du retour, J'ai pris le volant de leur voiture, une Lancia, tandis que mon père nous faisait remarquer les premières fleurs sur les arbres fruitiers. 3 jours plus tard, tout était fini.
Chetty's Lullaby de Chet Baker, en italien, s'il vous plaît.
Veglierò questa notte sopra te, dolce bimbo, ti dirò che presto tornerò senza te. Sento gelo nel mio cuore, cerco solo l'illusione d'averti qui con me. Torneran per me le stelle nel mio cielo senza più nubi, sogni d'or scendono lievi verso te. Dormi caro che domani col sol ti bacerò. Per me le stelle nel mio cielo senza più nubi, sogni d'or scendono lievi verso te. Dormi caro che ti bacerò.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Le 24 mars 1999, en fin de matinée, un camion semi-remorque en provenance de Belgique prend feu sous le tunnel du Mont-Blanc. Plusieurs voitures sont prises au piège de l'incendie, dont celle de vos parents.
La catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, le bilan de l'incendie reste provisoire, sans cesse revu à la hausse.
Les 45 pompiers français et suisses et leurs 20 véhicules d'intervention sont arrivés à 3h du matin. La température est retombée à 80 degrés, elle était encore de 1000 hier soir par endroit.
Vous relatez cet événement dans votre deuxième récit publié en 2011 et qui a pour titre Mont-Blanc. C'est un livre sur le deuil, mais aussi un livre qui célèbre la vie d'après le drame. La tristesse, la colère, les questions et l'égarement sont là, omniprésents, mais ils font bientôt place à autre chose, la douceur du souvenir et l'énergie d'avancer malgré tout.
Il était près de 23h lorsque le téléphone a sonné dans la pièce à côté. Ma tante voulait me parler. J'étais surpris car, outre l'heure tardive, nous ne nous appelions pratiquement jamais. Je n'ai pas même eu le temps de lui dire bonsoir.
Les gendarmes viennent de nous prévenir, il s'est produit quelque chose de très grave, une catastrophe, un camion a pris feu sous le tunnel du Mont-Blanc.
A-t-elle dit d'un seul trait. L'image du Mont-Blanc en flammes m'est apparue, une image extravagante, de feu et de glace mêlées, dont je ne savais que faire. Surtout, je n'ai pas immédiatement saisi en quoi cela pouvait me toucher. D'une voix blanche, qui ne laissait place à aucun doute, ma tante a tranché dans le vif.
Ton père et ta mère sont décédés.
Lorsque mes parents sont mentionnés dans le rapport, on dit les occupants du VL-20, VL pour véhicule léger. Ils font partie de ces rares usagers qui, curieusement, ont essayé de s'enfuir. Ils ont parcouru précisément 530 mètres à pied. On ignore par quel miracle. Leurs corps ont été découverts en fin de journée par un capitaine des pompiers, celui-ci ramassant le sac à main de ma mère, un petit sac en crocodile qui, plus tard dans la soirée, va permettre à la gendarmerie de les identifier et de nous prévenir. Mais les conditions étaient si hostiles qu'il a fallu les abandonner sur place. Ils sont restés 4 jours à cet endroit, tandis que le tunnel partait en morceaux. Le juge d'instruction.
Des traces de suie ont été retrouvées chez chacun d'eux au niveau de l'œsophage, de l'estomac et des bronches. Deux de ces corps présentaient une position significative d'une main portée près de la gorge, réflexe d'une personne qui s'étouffe. Ils sont restés pétrifiés dans cette position, comme soudainement foudroyés.
Alors, autant le dire, ils sont morts en amoureux, main dans la main, ou presque, saisis sur le vif de cette escapade entre la France et l'Italie. Qu'ils soient morts ensemble n'est pas leur seul mérite, puisque mes parents ont trouvé le moyen d'en finir précisément à la frontière qui relie ces deux pays, sous cette grosse montagne à la blancheur éternelle. Je joue volontiers avec ces pensées, qui parfois me réconfortent. En effet, que peut-on souhaiter de mieux finalement à un couple qui s'aime ? C'est idiot. Il m'a fallu quelque temps pour réaliser que ma sœur et moi étions orphelins désormais. Orphelins. J'avais dépassé les 33 ans. Orphelin. Orfano. Orphan. D'une langue à l'autre, le mot conserve sa mélodie aigrelette. Je l'ai caressé comme un galet dans ma poche, encombré par sa présence polie. Des figures rococo me sont remontées par hoquet, fondues enchaînées de David Copperfield en Little Orphan Annie. Je me suis senti solidaire des orphelins du monde entier. Voilà, il n'était pas question de pleurer sur mon propre sort. Orphelin passé, présent et futur, cela pend au nez de chacun et dépasse de loin le genre humain. Je comprenais ça. En un éclair, j'ai réalisé que je ne serais plus jamais seul.
Chapitre 9. Lorsque la maison de mes parents fut vendue, l'évidence nous explosa au visage, il fallait maintenant la vider. Nous n'avions que peu de jours pour cela, les futurs propriétaires attendaient en trépignant. L'heure n'était plus à la réflexion, mais au concret de la fourgonnette Renault Master, louée pour le week-end et garée devant la maison, dans laquelle s'entassaient en vrac les montagnes de meubles et d'objets passés, obsolètes. Certaines étagères furent démontées et d'autres abandonnées sur place. De même, un réfrigérateur, un établi en ferraille, plusieurs chaises de jardin et peut-être une tondeuse autotractée, je ne suis plus sûr de rien. L'opération eut lieu dans une sorte de précipitation, la frénésie d'un ultimatum sans fondement. Soudain, le temps s'accélérait. Était-ce mieux ainsi ? Qui sait ? Dans ces conditions, les choix n'en sont plus vraiment, pressés par la rigueur du tempo. Dans le même ordre d'idées, je ne me rappelle plus quel musicien de jazz a dit « improviser », c'est prendre une décision par seconde. Plusieurs expéditions furent montées en direction de la déchetterie voisine. Celle-ci, ultramoderne, était organisée en départements distincts. À l'entrée près des bennes, quelques types que j'associais sur le moment à des ombres guettaient patiemment l'objet ultime, la trouvaille miraculeuse au milieu des magnétoscopes aux rancards et des canapés défoncés. La météo se mettait de la partie, des giboulées alternant avec de brusques éclaircies propagées par un soleil moqueur. J'avais chaud et j'avais froid, tout à la fois. À présent, j'étais perché au sommet d'une benne dans laquelle venaient s'entasser nos petites affaires. Je les regardais tomber, accompagnés d'un bruit mat qui me faisait presque plaisir. Un plaisir confus et chargé de remords. Mais aussi, que faire de tout cela ? Alors je jetais tout, comme ces solides boîtes cartonnées, boîtes à archives qui portent si bien leur nom. En tombant, elle n'éclatait même pas et je savais que, fidèle comme personne, elle continuerait de protéger la comptabilité résolument tenue par ma mère pendant toutes ces années. Devis, factures, courriers, rédigés avec scrupule et application, en 3 exemplaires, carbone et papier pelure, s'il vous plaît. Je pense au nombre d'heures passées par ma mère penchée au-dessus de sa machine à écrire, à taper, corriger, classer. Je pense aux coups de téléphone, aux discussions sans fin avec mon père, à l'importance relative de toute cette prose jaunie, aux feuilles d'automne qui s'emportent, aux ouragans qui se déchaînent, aux bennes qui s'emplissent et ainsi de suite, leur tournée. Adieu, boîte. Adieu. En partant, à reculons, je me suis juré le jour venu de ne rien laisser derrière moi. Ou si peu. Chapitre 18.
Ce midi, je suis assis dans un bus sur la ligne 41. Nous sommes quelques voyageurs épars, chacun replié dans son propre cosmos. Pris dans la circulation, le bus avance par hoquet. Le soleil d'automne vient frapper les carreaux. Et je repense à cette phrase de Francis Scott Fitzgerald.
Pendant une minute, il aima violemment la vie, sans aucune envie de la quitter.
Elle est nichée au creux d'une fameuse nouvelle, L'après-midi d'un écrivain, écrite en 1936. Un court récit, à peine déguisé, dans lequel Fitzgerald raconte en détail ses difficultés à traverser une simple journée. À cette époque, il a 40 ans. Il lui reste encore 4 ans à vivre. Cela, il l'ignore, bien entendu. Mais la boisson et l'inquiétude ont sérieusement entamé sa confiance en l'avenir. Chaque matin réveille chez lui l'étonnement d'un jour nouveau. Son appartement se mue en un parcours semé d'embûches. Il n'avance plus qu'avec une multitude de précautions. Se lever, ramasser sa pantoufle, manger des œufs et du pain grillé, ouvrir son courrier, se raser, se mettre au travail, enfin. La moindre action relève d'une stratégie guerrière, une guerre sourde qu'il affronte de biais, comptant ses maigres munitions. Il trouve refuge dans son meilleur costume, avec le veston et le pantalon qui ne vont pas ensemble. Voilà une mention qui me touche. Finalement, encouragé par la lumière d'avril, il se décide à sortir, prendre un ascenseur, celui de derrière, où il sait qu'on ne le reconnaîtra pas. Puis, juché sur la plateforme d'un autobus, il regarde autour de lui, guettant les signes de la vie dans le mouvement des branches, une rangée de maisons, les chemises bleues des passants. À mesure que les rues du centre de Manhattan se rétrécissent, il aperçoit aussi des jeunes filles, nombreuses, toutes plus belles les unes que les autres. Visage pur de tout calcul, de tout problème, rien que douceur latente, provocation sereine, pense-t-il. C'est précisément là, à cette seconde, que lui vient le sentiment incongru, foudroyant, d'aimer violemment la vie, sans aucune envie de la quitter. C'est ce violemment qui me frappe le plus dans la phrase de Fitzgerald. Je me dis souvent que dans les derniers instants, chacun doit être saisi par un sursaut similaire, cette contraction du temps qui s'impose, telle une crispation des viscères, un éternuement, ou un battement de paupières. Rien d'un regret, non. Une fête en accéléré, plutôt une brève épiphanie, traversée de coups de sang.
Chapitre 32. Tandis que le juge prononçait le verdict, je n'écoutais plus vraiment, la tête ailleurs. Les comptes se règlent dans les banques ou les tribunaux, me disais-je, mais qu'importe. Mon esprit fuyait de toutes parts. Je pensais à mille autres choses, à n'importe quoi, au printemps, au lilas, au chien Snoopy, à Italo Calvino et à Félix le chat, la queue en pointe d'interrogation. Je pensais à Tim Buckley et sa guitare 12 cordes, un soir à Londres, pourquoi pas. Une mélodie confuse me parcourait. Je pensais à mon fils, aux gravures de Peter Bruegel le jeune, aux dessins de Paul Klee, à la perspective, aux peintures idiotes, aux comptines, refrains niais, rythmes naïfs, aux bruits blancs et aux bruits roses, aux bruits secrets qui traversent l'histoire, aux larmes et à tous les liquides qui s'échappent de notre corps, salive, urine, sueur, sperme, petite force. Je pensais à l'amour, au sexe et à la tendresse qui unit les choses et les êtres. Oui, je pensais bien à l'amour, au besoin de le faire souvent et à la difficulté de s'inscrire dans le présent. Je pensais à mes parents que j'avais surpris une nuit tard en train de le faire. Je les revoyais, ma mère nue, allongée sur mon père, haletant plus que gémissant, et leurs mains qui s'agitaient en caresses, et moi qui m'éloignais sur la pointe des pieds, me réfugiais dans ma chambre à l'étage. Plus tard, à ma fenêtre, j'avais fumé plusieurs cigarettes, riant seul à la pensée de mes parents physiquement unis, amoureux, alors qu'auparavant j'imaginais que cela n'existait peut-être plus entre eux. Et je savourais la capacité du monde à se régénérer sans cesse, tandis que ma fumée s'élevait, feu pâle mais persistant dans l'obscurité, accompagné par le ululement d'une chouette ou le couinement d'une chauve-souris, ou les deux à la fois, je ne sais plus. Tout m'allait, croyez-moi. Chapitre 45.
Selon l'écrivain espagnol Enrique Villamatas, dans la vie comme dans les livres, les rires et les pleurs sont toujours mêlés. La ligne de partage est vague, nous traversons une marée bouillonnante d'où il est extrêmement difficile de tirer le moindre parti, mais, en fin de compte, mieux vaut rire de tout ça. L'humour se révèle parfois comme le seul sens de l'univers, dit-il. Il cite aussi cette phrase de Moby Dick. lorsqu'un des personnages de Melville dit « Je ne sais pas où nous allons, mais de toute façon, moi, j'irai en riant. »
Chapitre 49. Il était près de 11 heures lorsque j'ai parcouru les derniers virages qui mènent à l'entrée du tunnel. Je me suis garé sur un grand parking de gravier dominé par une cascade qui descend directement du sommet, difficile à voir parce que tout proche. Tandis que je fermais ma portière, un policier m'a demandé où j'allais. Je lui ai expliqué que je voulais simplement me promener, faire quelques photos, et il m'a regardé m'éloigner avec bienveillance. Les choses allaient plus simplement que prévu. J'ai longé une barrière de sécurité bordant le trottoir qui, au bout d'un moment, se rétrécissait tant qu'il devenait dangereux d'y marcher. Tout près, une longue file de camions attendait de passer sous un portique le contrôle thermographique. Je sentais le ronron et la chaleur des diesels. Certains chauffeurs étaient descendus, le temps de fumer une cigarette. L'entrée du tunnel me regardait stupidement me rapprocher. Pour m'occuper les mains et l'esprit, je photographiais à droite et à gauche sans conviction. Le ciel bleu, le bâtiment des douanes, un panneau de signalisation, un employé. Je suis allé le plus loin possible, à l'endroit où le trottoir s'achève et laisse définitivement place à la route. J'étais à quelques mètres du trou. Régulièrement, un véhicule en sortait et s'y engouffrait. Il flottait là une odeur incongrue, odeur de poisson mêlée au gaz d'échappement. Je suis resté plusieurs minutes. Puis j'ai décidé que je n'avais plus rien à faire ici. Cette révélation m'a fait l'effet d'une bombe silencieuse, semblable aux collisions dans le vide interstellaire. Soudain, le Mont Blanc et son tunnel me sont devenus totalement indifférents. Peu m'importait de les traverser à pied, à cheval ou en voiture. Qu'ils m'oublient, je ferai de même. Je leur ai tourné le dos. La descente s'est rapidement amorcée en longues courbes et le volant entre les mains, je me suis mis à rire. Je riais franchement. Et le visage de Borges m'est apparu, riant, lui aussi. Bob Marley nous accompagnait, nous étions trois ou quatre dans la voiture et bientôt plus. L'air était doux, il venait doucement frotter la tôle et les vitres. Le sifflement se mêlait à mille autres bruits, mes pneus sur le bitume et le chant des cimes, pourquoi pas. J'ignorais ce qui m'attendait plus bas. J'ai accéléré. J'avais rendez-vous avec la vie. Je ne voulais surtout pas la faire attendre.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Con quest'occhio verde, un pezzo di cromo, due movimenti, il tuo sospiro, un paesaggio con lunghi canali. Mai viste da qui in mezzo a cielo due pianeti molto distanti lungo dall'altro, ma tu me l'hai detto, dove siamo, è diventato troppo stretto per noi. per noi.
Poursuivons notre voyage dans votre œuvre, Fabio Viscogliozzi, avec ce troisième roman, Apologie du slow, paru l'année dernière. S'attarder devant un tableau de Mondrian, chercher la tombe de Georges Perec, regarder par la fenêtre une maison s'effondrer, ou réfléchir à la place du cinéma au saut du lit, voilà quelques habitudes que vous avez prises tout au long de votre vie et que vous consignez dans cet ouvrage qui nous invite à ralentir et à profiter. Et c'est avec le cœur léger que vous ouvrez ce livre. Voici son premier chapitre.
Il y a quelque temps, en milieu d'après-midi, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai réalisé qu'il était urgent de reconsidérer ce qui, dans ma vie, m'apparaissait comme essentiel. L'urgence était telle que je ne pouvais attendre un jour ou une seconde de plus. J'ai immédiatement pris la décision de m'atteler à cette tâche qui, dans le fond, représente peu d'efforts, car il s'agit tout simplement de lâcher prise et de suivre sa pente au sens propre. Plus rien ne saurait me détourner de mon chemin, me suis-je dit, et j'en ai aussitôt éprouvé une joie intense. Cette joie débordait de toutes parts, elle circulait dans mes veines et dans les pièces de l'appartement, elle s'échappait par les fenêtres, réveillait par bouffées des sensations enfouies, passé et présent se confondaient, je suis vivant, me disais-je, et j'ai descendu 4 à 4 l'escalier de l'immeuble pour me retrouver dans la rue. Le soleil frappait le trottoir, le monde était toujours à sa place, différent et égal à lui-même. Il suffit de le saisir, pensais-je, et je me suis mis en marche, le cœur léger, en roue libre.
Le premier tableau de Mondrian que j'ai vu, le premier tableau en vrai, c'était au 3e étage du centre Georges Pompidou. J'avais 17 ans, je venais à Paris pour la première fois seul. C'est-à-dire que j'avais décidé de mon voyage et pris le TGV avec la ferme intention de voir quelque chose, la ville, des rues et des expositions, bref, j'étais le prototype parfait du novice, bouche et yeux grands ouverts, une bleusaille à l'aventure. Je l'ai immédiatement aperçu en débouchant depuis les escalators en tuyaux. Le Mondrian se tenait face à moi, légèrement décalé par rapport au portique d'entrée. Il s'agissait d'une composition simple, datée de 1921, disait le cartel. Je me suis penché pour regarder la signature familière, en petites lettres bâton. J'étais très ému. Du fait même de ce nom qui dansait devant mes yeux, j'en tremblais presque. Ce n'était pas simplement les qualités plastiques du tableau, mais au-delà sa présence, ici et maintenant. Je me suis approché le plus près possible, à quelques centimètres, parcourant du regard les infimes craquelures de la surface qui prenaient l'allure d'une carte géographique ou d'un immense archipel. Je cherchais à relever les coups de pinceau, la facture, le geste du peintre qui, pourtant je le savais bien, désirait obstinément se dissoudre dans l'uniformité absolue de ses couleurs. Mais malgré tout, une part de lui devait subsister dans les pigments et la structure moléculaire qui, immanquablement, avait capturé un peu de l'air du temps, l'air de Paris, celui de 1921. Je le respirais et j'imaginais Mondrian, posté à l'égale distance où je me trouvais. La peinture n'était plus simplement une vue de l'esprit, une idée, mais un objet tangible, réel. Quelques années plus tard, j'ai appris que le centre Georges Pompidou avait retiré plusieurs Mondrian de ses murs sous prétexte qu'il s'agissait probablement de faux tableaux. Un procès eut lieu, impliquant au passage la parole de Michel Sefort, grand spécialiste et ami de l'artiste. Le Mondrian que j'avais contemplé, le mien, était-il un faux, lui aussi ? Après réflexion, je me suis dit que cela n'avait aucune importance.
Un samedi, place de la Bastille. Nous avons 2 heures à tuer avant de reprendre notre train, alors je demande à mon fils ce qu'il souhaite faire. Il opte pour un double cheeseburger et une promenade au Père-Lachaise qu'il ne connaît que de nom. On s'exécute, au pas de course. Le ciel vire à l'orage, les pavés luisent sous nos pas. À l'entrée, on nous a remis un plan du site avec la liste des personnalités classées par genre, monde des lettres, monde des sciences, monde politique et militaire, et les chiffres qui correspondent à leurs adresses. Nous rendons d'abord visite à Jim Morrison, on le repère facilement à la foule agglutinée. Mon fils veut manger son cheeseburger près de la tombe du chanteur. Je le photographie devant l'arbre couvert de chewing-gum en souvenir de Jim. Il prend la pose et vérifie ensuite le cadrage sur mon téléphone. L'heure tourne vite et je lui propose d'aller voir Marcel Proust tout en haut du cimetière, pas si loin de Georges Perec, semble-t-il, sur le plan. Parfait, dit-il, comme ça on fera d'une pierre deux coups. En chemin, nous croisons des Corneille, Frédéric Chopin et Honoré de Balzac. Alain Bachung aussi, un peu seul. Les allées se vident, la fermeture approche. Nous perdons beaucoup de temps à trouver Proust, mais on y arrive. À part nous, pas un chat ici. Nouvelle photo, assis directement sur le marbre anthracite, les baskets près du nom en lettres dorées. « On laisse tomber Perec, dis-je, il est trop tard. »«
Maintenant, viens !»
dit mon fils. Et il se met à courir, je le suis, en soupirant. Nous errons longtemps, à l'aveugle, mais le bâtiment du Columbarium apparaît, par miracle, division 87. C'est une constellation de plaques colorées, une suite de petits tableaux monochromes alignés sans ordre chronologique ou alphabétique. Chacun correspond à une niche où reposent les cendres. Il y en a des centaines, des milliers peut-être, et je me décourage à nouveau. Comment dénicher Perec là au milieu? Nous nous greffons à un groupe emmené par un guide. Je n'ose pas l'interrompre. Mon fils, si.
Ah, Georges Perec,
dit le guide, balayant les plaques du regard.
Là.
Et soudain, nous sommes à 20 cm de Perec. Un peu essoufflé, les bras ballants, nous lisons son nom et les dates, 1936-1982. Que faire d'autre? Une photo.
Victor dit que la...
Perec.
L'écriture, c'est un puzzle dont il manque une pièce. Et les pièces qui existent sont tous les écrivains qui vous entourent, tous ceux qui vous éclairent, qui vous stimulent, etc. Et la pièce manquante qui va achever le puzzle, c'est les livres qu'on fera soi-même.
Chapitre 73. Un jour, c'était en janvier, je remontais la rue de Belleville et j'ai croisé le cinéaste Éric Rohmer. Il était très grand, portait une longue cape ou quelque chose que j'associe vaguement à une pelisse ou une capote militaire. Il semblait surgir d'une autre époque, du Moyen-Âge peut-être. Son visage était pâle et sec, avec la texture du papier. Mon regard a rencontré le sien, une fraction de seconde, et je me suis dit que désormais il y serait inscrit à jamais. Nos pupilles ont eu ce léger frémissement qui indique que l'on reconnaît quelque chose. Non pas quelqu'un, mais cet élément curieux, familier, qui nous invite à croire et à douter de tout, de la nature comme du froid. Puis chacun a poursuivi son chemin. Chapitre 82, à vous Fabien.
Mon grand frère est mort très jeune. Je ne l'ai même jamais connu, car il est mort le jour de sa naissance. Naissance qui précéda la mienne de 5 ans. Il devait s'appeler Christian. Chez moi, nous évoquions parfois la figure de ce grand absent, à table, le dimanche à midi. Ma mère n'avait pas eu la force ni le temps de voir son visage, mais mon père parlait de sa peau blanche et de ses cheveux très noirs. D'ailleurs, on avait conservé une mèche dans une petite boîte en plastique bleu pâle. Je l'ai retrouvée récemment au milieu de tout un fatras d'objets, et je suis resté longtemps debout, la boîte entre les doigts, me disant qu'il faudrait songer à s'en débarrasser un de ces jours. Souvent, il m'est arrivé d'imaginer ce que mon frère serait devenu s'il avait vécu. J'essayais de me le représenter, vieillissant dans un univers parallèle, une sorte d'Uchronie où nous nous retrouvions, bras dessus, bras dessous. Dans cette histoire réécrite, nous faisions des tas de choses ensemble. La phrase de Pessoa.
Non, il n'est pas de regret plus lancinant que le regret des choses qui n'ont jamais été.
J'ai toujours envié les fratries, Marx Brothers, Beach Boys, Ramones et tant d'autres. Vrai ou faux frère, qu'importe finalement, seul compte l'assemblage, le travail d'équipe, guitare, basse, batterie.
Chapitre 109. Je porte ma fille, je la retiens délicatement dans mes bras. Nous sortons de l'immeuble et une fois dans la rue, c'est tout autre chose. Elle reste calme, attentive, serre les poings, hume l'époque. Je tire sur la capuche d'une main pour la protéger du froid et de la neige qui tombe à gros flocons ce jour-là, mais la capuche glisse invariablement en arrière. J'avance à petits pas,
Nous remontons le trottoir et croisons à contre-courant un flot de collégiens en route vers l'établissement d'en face. Certains s'envoient des boules de neige à la figure, se courent après et se rattrapent, et leur voix se mêle au fourmillement de la ville, bruit de voitures et souffle des gens, l'air vif du matin. Ma fille s'en émeut d'un murmure. À la crèche, nous passions plusieurs portes, sas, ascenseur. Le bâtiment est neuf, il sent le mastic. Les murs alternent ciment brut et panneaux de bois stratifiés aux couleurs pastel. Dans le couloir du deuxième étage, je la libère de son anorak. Elle râle et rigole dans le même temps. J'enfile les gros couvre-chaussures en feutre gris et nous arrivons dans son royaume de jour. J'échange quelques mots avec les dames présentes, une ou deux recommandations, puis j'embrasse ma fille sur les joues et les cheveux, respire son odeur. Elle s'évade en direction des autres enfants. Discrètement, je l'observe encore, un instant, à travers la grosse porte vitrée, et je m'éloigne à reculons. Dehors, je lève la tête et j'essaie de l'imaginer derrière les fenêtres en action déjà. Je fais quelques pas, mon estomac gargouille et je me demande dans quelle direction aller, et une phrase me revient.
Je déambulais dans les rues, tout heureux de vivre, et je ne pouvais m'imaginer qu'il y eût quelqu'un sur la terre à qui le monde pût déplaire.
En prenant le chemin du café, je relève le col de mon manteau, la neige mouille mes lèvres, je la goûte du bout de la langue, chaud et froid à la fois. Je me dis que c'est un bon début.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Olivier Dupré. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Merci beaucoup Fabio Viscogliozzi.
Merci à vous.
Je signale la sortie de votre prochain livre, Les Hors-la-Loi, édité chez Confluence et sorti en septembre 2015. Nouvelle sortie aussi de votre prochain disque, Big Yum Yum. Non, pas prochain disque, premier album en fait, mais qui ressort. Big Yum Yum, ce sont des musiques de films. Bonne soirée et à la semaine prochaine.